des mots pour le dire. Dominique Demichel, médecin et psychanalyste, et Simon Martin. De la naissance à la mort, la vie ne serait-elle qu'une longue suite de séparations ? Pas si facile de se séparer des êtres qu'on aime, pas si facile de sortir d'un groupe et de trouver sa propre autonomie et sa liberté.
Bonsoir, mon chéri.
Bonsoir, papa. Dis donc, c'est toi qui as embarqué les deux bouteilles de Gruau-la-Rose ?
Je sais pas.
Ah oui, peut-être, quand j'étais chez Lucas. J'ai pas fait attention à ce que je prenais.
Oui, c'est bien ce que je te reproche.
Tu dînes ici ?
Bon, je suis pas très faim. Je grignoterai plus tard.
Qu'est-ce qu'il y a, ça va pas ?
Papa, maman, il faut que je vous parle. Bon, on s'est toujours tout dit.
Toujours.
Alors voilà. Vous me direz franchement ce que vous en pensez. Vous savez que je dois remettre ma thèse en juin. Et juin, c'est même pas dans 3 mois, c'est demain. Et malheureusement, on a mal évalué le travail. Plus on avance, plus on se rend compte de l'ampleur de la tâche. Et j'ai bien peur qu'on soit jamais prêt à temps. Alors j'en ai discuté avec mon directeur de thèse, qui me dit que j'ai tout intérêt à la reporter, sinon on va droit dans le mur.
Mais tu risques pas de perdre ton poste à Pékin ?
Mais oui, ton poste à Pékin !
Je les ai déjà contactés, ils me gardent la place. Comme l'a dit Monsieur Delerme, une petite impatience peut conduire à de grandes imprudences. C'est vrai que je suis plus un an près. Ils risquaient de tout gâcher maintenant, alors que je suis dans la dernière ligne droite, ce serait vraiment trop bête. Mais vous, franchement... Franchement, papa, maman, qu'est-ce que vous en pensez ?
Grosso modo, ça veut dire que ça repousse ta thèse d'un an et demi. Et qu'on va t'avoir encore à la maison pendant tout ce temps.
À moins que vous me supportiez plus.
Oh, mais pas du tout, qu'est-ce que tu vas chercher ? Alors on peut pas discuter, c'est tout de suite les grands mots.
Je plaisante, maman.
Non, c'est pas drôle.
Excuse-moi.
Vous aurez reconnu Tanguy, le film d'Étienne Chatillez. Docteur Dominique Demichel, c'est parfois très difficile de se séparer de ses parents et pourtant c'est une séparation capitale a priori dans la vie de tout un chacun.
Oui, je crois que c'est sûrement difficile de se séparer. Je pense que normalement c'est le travail de l'adolescence. Hein. Ce travail de l'adolescence, c'est, on pourrait dire, ce droit d'inventaire par rapport à l'histoire. Et puis surtout, la reconnaissance que... on a été très longtemps le fils ou la fille de ses parents, mais que ensuite il y a cette nécessité de devenir autonome. Ça passe dans le fait qu'il y a lieu de pouvoir intérioriser un certain nombre d'éléments qui proviennent de sa propre histoire. Non seulement d'intérioriser un corpus de valeurs, mais aussi d'intérioriser certains personnages qu'on va pouvoir ensuite habiter à l'intérieur de soi. En particulier, pour un garçon, une figure masculine, pour une fille, une figure féminine, mais pour un garçon et pour une fille, une figure aussi du sexe opposé. Donc le garçon, il a besoin de venir nourrir son féminin à partir de sa mère et à partir du féminin de son père. Et une fille a besoin de nourrir sa part masculine à partir de son père et de la partie masculine de sa mère. Donc ce travail de séparation est important, mais il n'est pas simplement une séparation dans le sens on prend de la distance, il est un travail d'intériorisation de ces figures parentales avec une évaluation. Hein. C'est-à-dire, je prends certaines choses, je les intériorise et je les fais miennes, et puis il y en a d'autres que j'abandonne. Évidemment, ce n'est pas un travail qui se fait en quelques semaines ou en quelques mois, ça prend plusieurs années, pendant ce long temps de l'adolescence, qui commence souvent, j'allais dire, à la fin de la puberté et qui commence à la fin de la puberté et qui se termine à partir du moment où vraiment on a un engagement, en général une vraie autonomie, engagement professionnel, souvent engagement de couple, engagement associatif et puis expérience intérieure. Hein. Donc ces quatre espaces de vie sont des espaces de vie autonomes. Et dans l'exemple très drôle que vous donniez là, on voyait bien, il me semble, dans ce que j'en ai entendu en tout cas, que ces différents espaces étaient encore très liés, quoi. L'espace intellectuel ou professionnel de la thèse, c'était encore chez papa-maman. L'espace émotionnel et affectif, c'était encore chez papa-maman. Et puis que la maman, on la sentait prête à pleurer, et le papa disant « Bon, ça veut dire que tu vas rester encore un an et demi chez nous ?» On ne savait pas trop s'il était d'accord ou s'il le regrettait ou si... voilà.
Docteur Dominique Desmichel, est-ce que ça veut dire tuer ses parents? Cette fameuse formule peut-être un peu toute faite qu'on utilise pour les adolescents qui se séparent de leurs parents? Les tuer symboliquement, bien entendu.
Oui, il y a deux figures hein, parentales qui comptent. Il y a les figures réelles hein, de son papa et de sa maman, et il me semble que on reste toujours confronté à ces figures et à ces contenus de réalité et ces contenus relationnels avec ses parents tant que ses parents sont vivants. Et puis il y a d'autres figures qu'on appelle des imagos intérieurs, c'est-à-dire c'est l'image que j'ai moi de mon papa dans le sens historique. Et l'image que j'ai de ma maman dans le sens historique. Mais c'est aussi des images qui sont construites à partir d'une figure de père ou d'une figure de mère. Et dans ces figures intérieures, les figures de grand-père et de grand-mère interviennent. Ou de temps en temps, on a des figures intérieures qui sont aussi prégnantes parce qu'on a eu une maîtresse à la maternelle, ou on a eu un enseignant qui a compté pour nous, ou on a eu un voisin qui a compté, une figure positive. Donc... Je ne sais pas si on peut, à proprement parler, dire « tuer père et mère ». L'idée de tuer, c'est en tout cas gagner une autonomie. Hein. C'est-à-dire ne plus être dans une hétéronomie, c'est-à-dire où la loi qui compte pour soi, c'est la loi de l'autre, c'est la loi de mon papa et de ma maman qui me disent comment je dois me comporter, ce que je dois faire, ce que je dois penser, ce que je dois ressentir, qui je dois aimer. Mais dans une autonomie, c'est-à-dire à partir de ce corpus d'histoire qui a été le mien, avec mon papa historique, avec ma maman historique, mais aussi avec les images intérieures que l'on garde à l'intérieur de soi, j'ai la possibilité de construire une vie pour moi avec une loi qui est la mienne.
Alors on a parlé de loi, autonomie, loi, liberté. Est-ce que l'autonomie, la liberté se gagne par l'autonomie obligatoirement, ou est-ce que c'est deux notions qui sont séparées ?
La liberté, pour moi, ça a un rapport beaucoup avec la loi parentale, dans le sens où la liberté, ça n'est pas « je fais ce que je veux hein. ». Ça, faire ce que je veux, c'est obéir à mes espaces de pulsion. Donc, il me semble que être libre, c'est dire « j'ai choisi quelque chose de ma propre loi intérieure et ensuite j'y obéis, quitte à ce que je change de loi hein. ». Donc, en effet, ce travail de liberté, qui est un travail au fond d'obéissance, mais d'obéissance choisie, hein, à une loi intérieure, ça se fait dans le rapport avec les parents. Hein. Donc il y a un lien important entre les deux, puisque au fond, cette loi parentale, que ce soit la loi de la frustration, de la limite, de la castration, diraient les freudiens, ou que ça soit la loi du don, de l'amour, de la proximité, dans une problématique plus féminine ou plus maternelle par exemple, cette loi-là, il faut que j'en ai fait l'inventaire et que j'ai la possibilité de choisir à l'intérieur de moi ce que je garde. Donc l'espace de la liberté passe par ce travail-là.
Et c'est toujours le travail de mettre du sens à une séparation, à un conflit. Ces choses-là arrivent, mais quand on n'y met pas de sens, forcément, on passe à côté de beaucoup de choses.
Je crois que c'est tout à fait important. Je crois que c'est Spinoza qui dit quelque part... rire, non, pleurer, non, comprendre, oui. Hein. Comprendre, c'est en tout cas essayer de donner du sens. Je crois que Umberto Eco, là, qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, dit la même chose, c'est-à-dire qu'il dit que lui, son travail, ça a toujours été d'aller au-delà des faits et essayer de donner du sens aux faits. Donc je crois que dans ce travail de mise en perspective, il y a très très souvent un travail de séparation. Hein. Produire de l'unité à l'intérieur de nous-mêmes, c'est probablement dans un très grand nombre de circonstances apprendre à se séparer. Et je crois que ce travail-là, en effet, ça produit de la liberté. Si cette liberté, justement, est obéissance à une loi qu'on s'est donnée, alors on pourrait dire la séparation, c'est en quelque sorte une sorte de travail, d'exercice, souvent difficile, peut-être même douloureux, de sa propre identité, de sa propre condition de sujet. C'est pour ça que, je reprends la notion de sujet, c'est pour ça que la notion de liberté, elle est indissociable de l'émergence de cette position, dans cette position de sujet, c'est-à-dire je décide ce qui est bon pour moi, et c'est une décision élaborée, évidemment, pas trop pulsionnelle, même si cette part pulsionnelle doit compter. Et ça, ça passe beaucoup par un travail de séparation. Donc je crois qu'au cours de la vie, ce travail de séparation, il accompagne le passage d'une position d'objet, hein, parce que quand on est enfant, on est objet de ses parents. Objet, ça ne veut pas dire qu'on est manipulé par ses parents, mais les parents nous ont demandé de répondre à quelque chose qui était leur désir d'avoir des enfants. Et quand on est parent, on a d'abord envie d'avoir des enfants pour soi, et tant mieux, parce que notre désir de parent vient nourrir profondément leur désir d'enfant. Et puis au fur et à mesure, là aussi, comme parent, on se sépare de l'enfant, puisqu'on apprend à accepter et à reconnaître que l'enfant, il a son propre désir, et qu'il va faire comme il entend, et qu'on n'est peut-être pas obligatoirement d'accord, on pense que c'est peut-être pas très très juste, qu'il va y avoir un travail d'échange, mais que, de toute façon, l'exercice de la liberté passe par cette séparation.
profession de psychanalyste, il vous arrive souvent d'avoir de rencontrer des patients qui, justement, n'ont pas donné de sens à certaines séparations, que ce soit au niveau filial ou bien au niveau d'un couple, et qui, du coup, en souffrent profondément. Et si oui, comment on travaille là-dessus ?
Je crois que dans le travail d'accompagnement dans un cadre de psychothérapie, on est toujours...
Double problématique de faire du lien et de trancher les liens, tout le temps. Et au fond, parfois, il y a des situations où, par exemple, dans les problématiques de souffrance très précoces dans l'existence, le plus souvent, il y a un grand manque d'un lien nourricier, constructif, donneur de vie. Et donc là, il s'agit, dans le cadre du lien que l'on a avec les patients qu'on accompagne, justement de faire du lien. Hein. Donc là, on est dans un travail qui retisse quelque chose. Et puis, il y a beaucoup d'autres situations dans lesquelles le lien aux parents, ou le papa ou la maman historique, mais bien plus profondément, avec l'image intérieure du père ou l'image intérieure de la mère, n'a pas été travaillée. Et donc, moi, dans mon travail, j'ai cette fonction, qui est une fonction pas de type autoritaire, bien évidemment, qui est d'accompagner une élaboration, j'ai une fonction qui consiste, au fond, à trancher quelque chose. Donc, à accompagner une vraie séparation. Et vraiment, là, je repense... à une personne que j'ai vue hier, une autre personne que j'ai vue avant-hier. Ce sont deux personnes qui sont adultes, mais qui, deux femmes adultes, qui ont toutes les deux des enfants, par exemple, mais qui ont un lien avec leur mère, qui est un lien extrêmement, extrêmement mortifère, dont elles souffrent énormément. Et donc, ce travail-là, c'est, pour moi, c'est de les accompagner à prendre conscience de ce lien mortifère et donc à effectuer un vrai travail de séparation. Et c'est un vrai travail de séparation qui n'est pas que un travail de séparation intérieure. Hein. Le plus souvent,
ça se joue dans la vie. Il y a un côté sage-femme, là, du coup, presque. Séparé pour oui. Vers une... On espère, en tout cas, une nouvelle naissance, quoi.
Voilà, voilà. Et avec, de temps en temps, des ruptures qui sont un peu difficiles et douloureuses. Hein. Et toujours dans cette double tension qui n'est pas facile à repérer et pas facile pour les patients à élaborer, qui est que ça se joue avec le parent historique toujours vivant dans une réalité, hein, parce que parfois il y a des situations de dépendance qui sont terribles, en particulier avec des mères abusives, des mères castratrices, des mères bouffeuses, des mères vraiment abusives. Mais aussi avec l'image intérieure, hein, parce que de temps en temps, l'image intérieure de la mère qui vient dire « ma fille, par exemple, aime-moi et pour que tu m'aimes, il faut que tu fasses ceci », ce n'est plus de temps en temps la maman historique, la maman réelle qui dit ça, c'est la maman intérieure qui continue à dire ça. Hein. Et donc la fille est encore assujettie à cette loi maternelle intérieure. Et donc, ce travail de séparation se joue avec ces images. Et ces images intérieures sont beaucoup, beaucoup plus puissantes que les mamans réelles, par exemple. Et c'est vrai avec les pères aussi. Hein.
Alors, on l'a vu, la séparation peut être douloureuse entre les enfants et leurs parents. Au cours de sa vie, on peut rencontrer aussi d'autres séparations qui peuvent être difficiles. Je pense aux manipulateurs. On en parle très souvent en ce moment, comme si le sujet devenait moins tabou. On va avoir aussi besoin là de se séparer d'un supérieur hiérarchique ou d'une quelque autre personne qui vous manipule, qui vous enferme dans son propre système de pensée.
Dans votre question n'est pas simple, hein, elle est complexe. Il me semble que dans les situations, par exemple, de harcèlement moral ou de souffrance au travail, il y a deux types de situations hein, qui sont vraiment très différentes. Il y a des situations dans lesquelles vraiment le supérieur hiérarchique est un harceleur et où au fond la personne harcelée est une personne tout à fait normale et où il n'y a rien de particulier, sauf que évidemment elle a un statut hiérarchique qui est le sien. Voilà. Et là donc elle est dans une situation d'obéissance ou d'une forme d'assujettissement, mais liée à la hiérarchie. Dans un contexte, bien évidemment, où il est difficile de claquer la porte et puis de se dire « je me prends 15 jours de vacances et puis ensuite je me retrouve à travailler ailleurs », on voit bien les contraintes que ça représente. Mais la majorité de ces gens-là ont en général une structure du moi qui tient bien la route et en général trouvent les moyens de se plaindre. Que cette plainte soit à, je sais pas, au N+2 par exemple, que ces plaintes se passent par un dialogue avec le médecin traitant, que ça passe par la médecine du travail, que ça passe par d'autres moyens, de temps en temps par des moyens un petit peu détournés, que sont, enfin détournés et involontaires bien évidemment, que sont l'accident de travail. Hein, l'accident de travail est vraiment à penser, enfin pas toujours, mais dans un certain nombre de circonstances, à penser comme une manière de sortir d'un espace professionnel qui est une véritable malsain. Prison, voilà, malsain, tout à fait, ou de temps en temps par une somatisation, hein, voilà, alors on est malade et puis on ne comprend pas pourquoi, il se passe quelque chose et puis on est de nouveau, bon, et puis le médecin traitant il dit, là, en 2 mois, c'est la 3e fois que je vous vois, c'est pas très normal à votre âge, qu'est-ce qui se passe, voilà, oui, puis en plus, docteur, je dors mal, etc., voilà, donc, voilà, et dans ces cas-là, il y a une plainte qui vient émerger. Ces situations-là sont les moins graves, hein, parce que en général, il y a quelque chose qui émerge, il y a un symptôme qui fait signe, hein, qui fait un signe violent, et donc on peut en faire quelque chose. Et puis, dans certaines circonstances, le supérieur hiérarchique entre en résonance avec, j'allais dire parfois, une sorte de noyau masochiste à l'intérieur de la personne qu'il a sous ses ordres, vous voyez. Non pas que la personne ait une structure de type masochiste, mais on a tous notre petit côté maso quand on est prêt à rendre service, peut-être un petit peu trop, hein, et on sait bien que la générosité, ça s'arrête là où commence le mépris de soi-même, l'oubli de soi-même. Hein. Donc de temps en temps, ces gens-là viennent au nom d'une efficacité professionnelle, d'une performance, mais si, je compte sur vous, enfin vous voyez, tout ce type de choses de type manipulation que vous évoquiez au début de votre question, utilisent l'autre dans ces espaces un petit peu les plus faibles et dans ces cas-là mettent en résonance cet espace masochiste-là. Si ça prend trop d'ampleur, de temps en temps, on arrive à avoir une relation, indépendamment des structures de personnalité qui peuvent être, en tout cas pour celui qui est au niveau en dessous, tout à fait normal, on peut arriver à un rapport qui peut être presque de type sadomasochiste. Hein. Voilà. Alors ça, c'est parfois extrêmement, extrêmement difficile à repérer et il est parfois vraiment difficile de s'en sortir. Hein.
Alors, comme vous le disiez un peu plus tôt, la maladie peut être une forme de séparation, du coup, qui pour un nouveau départ, quelque part. Et le cas extrême, ce serait donc le suicide, l'ultime séparation qu'on puisse faire.
Je ne mettrai pas ça sur le même plan, hein, parce que est-ce que la maladie... Je ne sais pas si on peut dire que la maladie est une séparation. Je dirais le symptôme, oui, le signe peut être...
Je veux dire, il y a un avant et un après.
Oui,
on peut
certes.
Dans un accident, même, c'est vrai, n'importe quel accident, voilà. De la vie, un avant et un après.
Voilà.
Il y a une rupture.
Tout à fait. Pour l'accident, je suis d'accord. Pour le symptôme, hein, par exemple, je dors mal ou j'ai mal au ventre ou j'ai une lombalgie, hein, tous les troubles musculosquelettiques comme on en voit énormément actuellement, hein, qui sont liés à des tas de facteurs de ce type sédentarisation, manque d'activité physique, etc. aussi, bien évidemment. Ça fait. La maladie, je pense que c'est important de se dire, hein, je renvoie vos auditeurs aux émissions qu'on a fait autour du corps, la maladie... Elle n'a pas de sens en soi. Hein. La maladie n'a pas de sens. Ça ne fait pas du sens d'être malade. Hein. Ce qu'on peut faire de sa maladie, ça peut éventuellement faire du sens. Hein. Donc je ne pense pas que la maladie en soi, elle soit une séparation. De temps en temps, elle peut être un moment de questionnement. Pourquoi est-ce que je suis malade? Pourquoi ça m'arrive? Mais c'est la pratique du questionnement et l'élaboration du sens, celui que vous convoquiez tout à l'heure, hein, du sens, qui va éventuellement permettre une séparation, une autonomisation, et en particulier, puisqu'on est dans ce sujet-là, une séparation du milieu professionnel. Hein.
Par exemple.
Voilà, je pense, une patiente que j'ai vue cette semaine aussi, c'est une histoire qui date d'il y a un an à peu près, mais elle était avec une femme qui était une chef dans une structure associative qui était complètement cinglée, on va dire, au premier degré. Hein. Et cette femme avait des kilos et des kilos de symptômes partout. Je l'ai même suivie à l'hôpital pour qu'il y ait un travail en équipe, etc. À partir du moment où on a pu l'accompagner et faire qu'elle sorte de son travail, Voilà, je l'ai revu la semaine dernière, puis je lui ai dit, ah, dites donc, ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas vu. Ça avait peut-être 8 ou 10 mois, je ne l'avais pas vu. Et elle venait pour une histoire qui n'avait en gros pas d'importance. Et là, on ne peut pas dire que, si vous voulez, sa maladie, en gros, ses douleurs multiples partout, avaient permis la séparation. C'est l'accompagnement de toute une équipe, l'élaboration qu'elle en a faite, et la possibilité pour elle de se séparer, de quitter cette chef complètement folle, qui a fait que, j'allais dire presque du jour au lendemain, enfin l'espace de 2-3 mois, hop, tout est parti, et je ne l'ai plus revu là. J'étais bien content de la revoir d'ailleurs, mais pour quelque chose qui n'était pas grave, quoi. Hein.
Et pour le suicide alors?
Alors pour le suicide...
Et on terminera là-dessus?
Non, pour moi le suicide, je
c'est
l'ai
pas
déjà
une séparation.
Dit. Non, pour moi c'est pas une séparation parce que... comme je l'ai plusieurs fois dit, on ne se suicide jamais par courage, ou on pourrait penser que le courage, c'est une séparation. Enfin, une séparation nécessite du courage, en tout cas. On ne se suicide jamais par lâcheté, on se suicide simplement parce qu'on est désespéré. Hein. On se suicide par désespoir. Donc, ça ne fait jamais, jamais du sens, hein, un suicide, puisque c'est une double violence. Une violence contre soi, parce qu'on est désespéré, et d'un désespoir qui ne va pas faire de sens, et puis c'est une violence pour l'entourage. Donc pour moi, autant le symptôme, le signe de quelque chose, une maladie peut-être, si la personne en fait quelque chose, ça peut accompagner et permettre une séparation, le suicide non. C'est une erreur du moi pour moi, c'est toujours une erreur du moi. Mais voilà, alors par contre, de temps en temps, une tentative de suicide avec la possibilité après de comprendre ce qui s'est passé et d'élaborer quelque chose, oui, ça peut être un premier temps pour une séparation.
Des mots pour le dire, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci au docteur Dominique Desmichel. On se sépare pour mieux se retrouver dans 15 jours afin de poursuivre notre exploration de ce thème, la séparation. Thank you.